I'm turning today to Paul's second letter to the Thessalonians and chapter 2.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Pour ceux qui regardent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelque parole ou quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Nous en arrivons à ce deuxième chapitre dans cette épître extraordinaire. Et ceci parle des signes de la fin. L'apôtre Paul commence en disant « Je vous prie, frères, les Thessaloniciens, par l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ou en relation avec l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, en ce qui concerne notre réunion avec lui, c'est là le sujet des versets qui suivent. Deux choses importantes qui sont liées de manière très intime. L'apôtre Paul adopte ici un ton très fraternel quand il dit ces choses. Nous vous prions, frères, nous vous implorons, frères, mes frères, il pourrait dire. Malgré le fait qu'il ait l'autorité de parler de la part de Dieu, de leur commander par rapport aux choses à croire, aux choses à comprendre, il parle de ce sujet avec beaucoup de grâce. Nous vous prions, frères et sœurs, en relation avec l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il les a enseignés par rapport à cela auparavant et il nous le dit dans peu de temps. Mais les choses sont allées de travers et son enseignement n'a pas été bien compris ou peut-être qu'il a été tordu d'une manière délibérée ou changé de la mauvaise manière et ainsi il y avait de la confusion. Nous vous prions, frères, en relation avec l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il les a enseignés, et tout est là dans la première lettre aux Thessaloniciens. Il les a enseignés par rapport au retour de Christ, par rapport aux saints, aux rachetés qui seront encore en vie sur cette terre, qui seront rassemblés dans les cieux. Et cependant, ce qu'ils croient apparemment, ce qu'ils pensent à ce moment-là, c'est leur mauvaise compréhension ou des gens qui leur ont enseigné des choses mauvaises que Christ va revenir sans rassemblement. Et ainsi, il introduit ce sujet concernant le retour de Christ et en particulier en relation avec cet événement qui a été décrit déjà, le rassemblement dans les cieux, dans l'air. Au verset 2, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées. C'est des termes forts comme un navire qui est ébranlé dans la tempête sur l'océan, que vous ne soyez pas ébranlés ou peinés d'aucune manière, pas par quelqu'un qui dit qu'il parle par l'Esprit Saint, ni par des paroles, c'est-à-dire quelqu'un qui dit « Oh, j'ai entendu l'apôtre Paul qui a dit ceci ou cela », ni par des lettres, parce qu'il y avait des lettres, des fausses lettres qui se passaient et qui disaient être de la part de l'apôtre Paul, ou par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche, qu'il est déjà venu ou qu'il est imminent. Que ceci se passe presque maintenant. Mais ceci ne peut pas être le cas, dit l'apôtre Paul, parce qu'il y a certains signes de la fin qui doivent venir avant. Et ensuite, nous allons suivre son enseignement remarquable par rapport à l'homme de péché, etc. Certains ont dit que ce qui suit dans le chapitre 2 est principalement original de l'apôtre Paul, que vous ne trouvez ceci nulle part ailleurs dans la Bible. Et des critiques, ceux qui doutent de l'inspiration divine, disent que ceci est entièrement différent de tout ce à quoi nous pouvions nous attendre jusqu'à présent. Et bien sûr, ceux qui critiquent ainsi ne connaissent pas leur Bible. Nous pourrions passer du temps ce matin, mais ce ne sera pas notre but, pour lire par exemple dans le livre de Daniel, chapitre 7, et chapitre 8, où beaucoup de choses concernant le retour de Christ, le retour final de Christ, est mentionné, la fin des temps, les caractéristiques, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le langage de l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens, dans le chapitre 2, c'est un langage qui ne cite pas, mais qui est un écho très proche de tout ce que vous lisez dans ces chapitres 7 et 8 de Daniel. Dans un certain sens, c'est un commentaire sur ces chapitres, une explication de ces chapitres qui reflète ces termes même dans Daniel. Il ne cite pas, il ne copie pas ces versets, mais il suit ces versets et les mêmes idées de très proche, bien sûr, parce qu'il est inspiré par Dieu. Et ce que Dieu donne à Daniel dans sa prophétie, souvenez-vous, Dieu lui dit « scelle ceci jusqu'à la fin », comme pour dire « ceci ne peut pas être compris jusqu'à la fin des temps, ceci ne sera pas intelligible jusqu'à la fin des temps, la fin même ». Et maintenant, par le Saint-Esprit, la fin des temps est arrivée, la période de l'Évangile, la fin des temps, l'apôtre Paul commence à expliquer, ouvrir le livre de Daniel et les prophéties anciennes pour nous. Vous pourriez dire qu'il n'y a rien d'original ici, il n'y a rien qui n'est pas déjà présent dans le livre de Daniel, dans un langage plus mystérieux, parce que ce n'était pas encore le moment pour découvrir ces choses d'une manière claire et comprendre. Et je mentionne ceci alors que nous commençons. Et j'aimerais lire au verset 3, parler de ces deux événements qui précèdent la venue de Christ. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant. Ce jour ne viendra pas. Il faut que la révolte soit arrivée auparavant. Il y a deux événements qui précède la venue de Christ. Et l'apôtre Paul est inspiré ici pour mentionner ces choses. Il y a des détails qu'il ne mentionne pas et qui sont écrits ailleurs, dans Apocalypse par exemple, et même dans la première lettre aux Thessaloniciens. Mais ici, il va s'en tenir à deux points basiques qui seront suffisants pour l'enseignement présent. Car il faut que la révolte soit arrivée auparavant. Et deuxièmement, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ainsi, d'abord, une apostasie, une révolte. L'apôtre Paul est en souci pour que les Thessaloniciens comprennent cela. Leur mauvaise compréhension, c'est qu'ils pensaient qu'un retour soudain de Christ voulait dire un retour imminent de Christ. C'était là leur erreur. Oui, Christ viendra soudainement, mais cela ne signifie pas de manière imminente. D'abord, il y a des choses qui doivent se passer, comme l'apôtre Paul va leur montrer. Et voici ces textes, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant, et l'homme de péché, le fils de la perdition. Ainsi, il y a une grande apostasie d'abord. Ceci vient du terme grec « apostasie ». Ce terme « apostasie », quand vous pensez à cela, pensez non pas simplement à des gens qui, dans leur foi chrétienne, perdent leur sincérité ou qui errent. Pensez à un divorce dans le monde. Pensez à une brèche complète, une séparation avec animosité, opposition, hostilité. Tout ceci est impliqué là dans le terme « apostasie ». Il y aura d'abord une apostasie. Comme il nous est dit dans 1 Jean, les choses de la fin, les choses de l'Antichrist, même cette apostasie se passe même dans les temps bibliques. Dans un certain sens, il y a quelque chose du genre depuis le début même de l'Église et dans toute la période de l'histoire de l'Église, il y a une certaine mesure d'apostasie et d'opposition. Nous savons cela et nous en sommes bien conscients. Au temps de l'apôtre Paul, les principaux qui s'opposaient à lui étaient les judaïsants. Et vous lisez beaucoup par rapport à cela dans les Épîtres. L'apôtre Paul voyageait, il évangélisait, il formait des églises Et derrière lui, il y avait des faux enseignants qui venaient de Jérusalem, qui le suivaient et qui essayaient d'entrer dans ces nouvelles églises pour leur dire « Non, non, vous ne pouvez pas être sauvés uniquement en croyant en Christ. Vous devez adopter le judaïsme également et garder la loi juive. » Les judaïsants. Et ils ont fait beaucoup de mal dans ces églises. Et ensuite, alors que l'écriture de l'Apocalypse se finit, que le Nouveau Testament est entièrement écrit, après viennent les gnostiques. Je ne vais pas aller dans les détails. Puis, il y a toutes sortes d'autres mouvements, des choses dont vous avez entendu parler. Au VIe siècle à peu près, vous avez l'apostasie qui amène à l'Église de Rome, avec toutes ses erreurs terribles et son opposition au salut, aux doctrines du salut. Et ensuite, nous en arrivons à des temps plus modernes, au XIXe siècle, où je laisse beaucoup de côté, vous avez le libéralisme théologique et l'incrédulité qui a affecté toutes les dénominations chrétiennes dans notre pays et les a toutes amenées sur leurs genoux. Et maintenant, vous avez la dernière période, l'athéisme. Jusqu'à présent, tous ces mouvements, toutes ces apostasies ont été pour pervertir, pour changer la religion, pour amener la mauvaise doctrine, la fausse doctrine. Mais la marque de Satan, c'est plus de polluer la doctrine et la religion, mais d'amener l'athéisme. Nous sommes bien avancés dans ce processus d'athéisme. L'hostilité, l'athéisme est entré de nos jours. Ainsi, il y a toujours eu des apostasies représentées durant l'histoire de l'Église, mais c'est là ce que l'apôtre Paul veut dire ici, juste avant la venue de Christ, à la fin même de cette dernière période. La dernière période, c'est maintenant, depuis la première venue de Christ jusqu'à sa deuxième venue. L'Évangile, l'ère de l'Évangile, de l'Église, tout ceci est décrit dans le Nouveau Testament comme étant la dernière période. Mais à la fin de la dernière période, cette apostasie sera à son sommet et sera si prononcée, si extrême. Et c'est là ce à quoi se réfère l'apôtre Paul ici. Car il faut que la révolte soit arrivée auparavant. L'apostasie, nous avons vu l'apostasie. Et ceci va arriver à un sommet, à un pic. Et en même temps, cet homme de péché sera révélé, le fils de la perdition. Fils de la perdition, ceci signifie qu'il est le fils de la destruction. Il va être détruit, il est incorrigible, il ne peut pas être sauvé. Il est perdu, il est l'homme de péché. L'antichrist. Il y a des antichrists qui sont là déjà. Tous ces antichrists mineurs, mais lui, l'antichrist sera l'homme de péché. Quand nous parlons de l'homme de péché, pensez en termes de l'homme sans loi. C'est là littéralement ce que cela veut dire. Un homme qui est contre la loi morale de Dieu, contre la loi de Dieu, contre l'ordre. L'homme du péché, qu'il soit révélé, est-il une personne ? Il se peut qu'il soit une personne, il se peut qu'il soit un mouvement. Mais s'il est un mouvement, il y aura une personne à la tête de ce mouvement, parce que la manière par laquelle l'apôtre Paul parle dans tout ce passage, l'homme du péché est un homme littéral. Ainsi, si nous voyons l'homme du péché, et je pense que c'est possible que ce soit un mouvement, cependant, il y a quelqu'un à la tête de ce mouvement, quelqu'un qui est un leader, qui présente ce mouvement, qui est le personnage principal, l'homme du péché, qu'il paraisse, qu'il soit révélé. Un mouvement, quelque chose comme le communisme par exemple, mais ce n'est pas cela, parce que ceci est passé. L'ancienne URSS est passée. Encore en Chine, oui, mais il ne semble plus être la force qui possède le monde comme auparavant. Et ceci ne correspond pas dans tous les aspects à l'Antichrist, mais quelque chose de ce genre, peut-être de nos jours, mais je suggère ceci simplement, il se peut que ce soit le grand mouvement de l'humanisme scientifique. qui rentre dans chaque pays dans le monde, le rationalisme, l'abolition de Dieu qui envahit et qui possède l'esprit des gens. Ceci répondrait aux caractéristiques de ce passage par rapport à l'Antichrist. Et un leader peut émerger dans ce mouvement. Il y a des gens qui sont des leaders de nos jours, des gens connus, célèbres, qui semblent être ces grands militants de l'humanisme scientifique. Mais peut-être qu'il y aura quelqu'un qui, au-delà de tous ces gens importants, qui rassemble tout ce mouvement ensemble, l'homme du péché ou l'homme sans loi. Pensons un peu aux objectifs de l'homme du péché. Ce mouvement, imaginez, l'humanisme scientifique en tant que mouvement qui se combine avec toutes les forces LGBT, homosexuelles et les choses qui sont sans loi, toutes ces choses dans une seule grande masse orchestrée, une campagne contre la Bible, contre les chrétiens. Oh, nous pouvons imaginer cela, nous devons faire attention parce qu'il y a 30 ans, les gens voyaient le communisme dans ces versets. Ainsi, nous devons faire attention. Mais nous pouvons imaginer tous ces grands mouvements pour influencer l'esprit des hommes et des femmes. Au verset 4, l'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il s'oppose à Christ, à Dieu. C'est plus que de mépriser. Ceci ne dit pas simplement qu'il méprise le message chrétien. Il s'oppose au message chrétien. Si on retourne au 6e, 7e siècle, quand l'Église de Rome s'est développée, elle n'a pas méprisé le nom de Dieu. Elle a tordu les doctrines, perverti le christianisme à sa propre volonté et a empêché le salut de ses adhérents. Mais ceci est différent. Ceci pourrait être juste pour l'humanisme scientifique qui s'oppose et qui s'attaque à l'Évangile et qui hait les choses de Dieu et l'Église. Et ceci deviendra de pire en pire. Et nous voyons ceci de nos jours. Il s'oppose, il s'attaque de manière terrible à l'Évangile. Nous voyons les choses se mettre en place, mais nous ne voyons pas encore l'apogée et le sommet de ces choses. Et nous voyons ces choses partout. Je pensais l'autre jour, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand l'ennemi s'est rendu, le premier ministre de ces temps-là, Winston Churchill, a amené tous les députés du Parlement dans l'église du Parlement pour remercier le Seigneur pour un culte. Oh, vous pouvez imaginer quelque chose de ce genre de nos jours? Non, on ne peut pas mentionner Dieu de nos jours. Les choses vont de pire en pire. Peut-être ces gens n'étaient pas tous des croyants, mais ils étaient prêts à respecter Dieu. Il y a bien des années, nos politiciens n'auraient pas honte de nommer Dieu et d'utiliser des termes religieux. Puis ceci a été abandonné dans notre pays. Nous avons remarqué que les présidents américains finissaient encore leur discours avec « Dieu bénisse l'Amérique ». Mais nous n'entendons plus ceci de nos jours ici. Et maintenant, les Américains nous ont rattrapés. De plus en plus, la religion Dieu et Christ ne peut plus être mentionnée dans les milieux intellectuels, les milieux qui gouvernent, même aux États-Unis. De nos jours, si vous parliez de Dieu, les gens seraient si surpris et ils mépriseraient Dieu, ils riraient. Vous voyez ceci, tout est là dans le livre de Dieu, sous forme de prophétie, tout est expliqué là par l'apôtre Paul, qui s'oppose. Vous voyez tous les signes de l'opposition et ce sommet va être atteint bientôt. De nos jours, nous devons faire face à des attaques contre le christianisme partout comme étant des mythes, des mensonges. Et à présent, les gens qui se tiennent fermement pour la vérité morale, on dit qu'ils sont des criminels. Et la nouvelle définition des valeurs anglaises, apparemment, c'est d'accepter de transgresser la loi de Dieu. Ceci est dans la loi du pays à présent qui s'oppose à Dieu. Et nous voyons toutes ces choses se mettre en place et qui s'élève au-dessus de tout. Il s'exalte lui-même. L'arrogance, partout, les enfants sont enseignés, on nous dit partout. L'homme n'est pas mauvais. Oh, il y avait un moment, un temps, où les gens suivaient des enseignants comme saint Augustin et sa théorie du péché. Non, ce n'était pas sa théorie du péché, ceci venait de la Bible. On parlait de dépravation, de la chute, de l'homme qui est pécheur dans sa nature même. Non, nous mettons tout de côté. Tout le monde est bon dans sa nature même. La nouvelle manière d'enseigner. Et nous mettons de côté les critères moraux donnés par Dieu. Et nous voulons écrire pour nous notre propre loi, ce qui marche le mieux dans notre société, ce que nous voulons. Parce qu'on pense qu'on peut mettre de côté tous ces critères moraux, bibliques, et réécrire les lois comme nous les voulons. Je sais mieux, il n'y a personne au-dessus de moi, je suis mon propre Dieu, je peux écrire mes propres critères moraux et faire comme je le veux, comme je décide. Je ne suis pas dans le péché, je ne suis pas mauvais, j'ai l'autorité, j'ai la connaissance, j'ai la liberté de faire tout ce que je veux. Il est Dieu à ses yeux, personne d'autre à qui il veut rendre compte, qui s'exalte lui-même au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Cela ne signifie pas qu'il sera le pape ou le chef de religion principale, c'est qu'il a mis de côté Dieu. Il est au-dessus de Dieu lui-même, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, c'est-à-dire littéralement l'homme a pris la place de Dieu pour lui-même. Nous voyons ceci dans notre propre temps. Un homme qui domine dans notre pays depuis à peu près 3 ans maintenant, l'enseignant de la création ou même de l'intelligence dans la formation du monde est devenu illégal. C'est illégal que d'enseigner ceci dans notre pays. Les gens n'ont pas réalisé ceci peut-être. C'est le verset 4 qui devient réalité devant nos yeux. Tous les étudiants à l'université qui cette année lisent les livres de biologie, leur liste de lecture est tellement sélectionnée qu'il n'y aura aucun qui aura une seule objection contre l'évolution dans toute cette lecture. Et nous disons, je ne crois pas dans la religion, je suis libre de cela. Ils ne réalisent pas qu'ils sont captifs d'un système qui est mis en place autour d'eux et qui veut éliminer Dieu. Même si ce sont des gens importants, célèbres, tout commentaire qui donne un tout petit doute par rapport au matérialisme et à l'évolution n'est plus accepté, n'est plus légal. C'est là l'arrogance de l'humanisme scientifique. L'été dernier, ou l'année d'avant, je ne me rappelle plus, le professeur Richard Dawkins a décidé que les camps de jeunes organisés par des chrétiens devraient être illégaux. Ceci ne s'est pas encore passé, mais c'est là l'humanisme. Ils veulent se débarrassés de la Bible. Ils ne veulent pas même penser qu'il puisse y avoir 50 ou 100 personnes qui ont des vacances ensemble et que pendant ces vacances, quelqu'un ouvre la Bible et leur enseigne par rapport à Dieu. Ils disent non, rendez ceci illégal. Ceci est contre la société. Oh, personne ne vote pour cela, mais à la fin, ils y arrivent. Et il domine jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Si vous considérez les programmes télévisés qui parlent de la vie, de la nature, les présentateurs sont tellement anti-Dieu, anti-création, tellement évolutionnistes, tout terme est utilisé pour remplacer Dieu. La nature fait ceci, la nature fait cela. Et vous ne pouvez pas mentionner Dieu parce que vous le haïssez, vous êtes contre Dieu. Nous voyons tout ceci qui se forme autour de nous. Et je dois en arriver à un autre verset. Ceci va arriver à son sommet. Au verset 5, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous ? Et maintenant vous savez ce qui le retient, ce qui empêche l'homme de péché d'émerger. » Le sommet, la dernière période, vous savez ce qui le retient. Paul leur a dit, il ne nous dit pas. Il leur a dit, mais il ne nous dit pas à nous. C'est un mystère. Pourquoi est-ce que les Thessaloniciens savaient cela? Qui retient l'homme de péché? Et nous, nous ne savons pas. Je vais vous dire ce que je pense être la réponse à cette question. La réponse, c'est que nous n'avons pas besoin de savoir. C'est si évident. Seul Dieu retient l'homme du péché. Mais regardons les détails. Au verset 7, « Car le mystère d'iniquité opère déjà. » Le mystère d'iniquité, c'est extraordinaire. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul l'appelle le mystère d'iniquité? Tout ce que j'ai décrit, c'est là ce qu'il veut dire. L'apostasie, ce grand déclin, cette opposition constante à la vérité qui arrive à un sommet à la fin des temps. Pourquoi est-ce un mystère? Ce n'est pas un mystère pour nous. Il l'a expliqué. Nous pouvons le voir clairement. C'est comme une campagne orchestrée sur tout le monde entier. LGBT, par exemple, les homosexuels, partout c'est le même langage, le même progrès, l'humanisme scientifique, les mêmes livres, les mêmes enseignants, les mêmes idées. Tout cela est dans le monde entier. C'est une campagne orchestrée par Satan. Ce n'est pas un mystère pour nous, mais c'est un mystère pour le monde. Si vous êtes un incroyant, peut-être vous avez un doctorat, peut-être que vous êtes un professeur dans un département, peut-être que vous êtes très intelligent, mais si vous êtes un incroyant, vous ne comprenez pas la campagne orchestrée par l'iniquité et vous ne réalisez pas. Parce que vous ne croyez pas en Dieu, vous ne croyez pas dans le diable, ceci ne vous a jamais traversé l'esprit que le monde est sujet à une grande campagne. C'est un grand mystère pour vous et en d'autres aspects également. J'aimerais suggérer certains aspects. Prenez le communisme. Sa puissance, sa méchanceté, son oppression, etc. Et cependant, moralement parlant, c'était, si je puis dire, plutôt puritain. Et il y avait la loi, l'ordre. Quel mystère! Les représentants de l'humanisme scientifique, des athées. Cependant, il y a la loi, l'ordre. Cependant, les dirigeants eux-mêmes étaient des hommes immoraux. Comment est-ce que ceci se peut? C'est un mystère. C'est la main de Dieu qui a décidé qu'il n'allait pas descendre sur ce chemin-là. Ainsi, la loi et l'ordre les retient, les limitent. Il y a une limite qui est mise sur eux, le grand mystère d'iniquité. Pour en arriver à ce point-là, de mettre en dehors toute loi morale et cependant, Dieu retient ces choses. Ils ne peuvent pas continuer dans leur chemin. Ainsi, nous voyons ceci dans notre société occidentale. Nous voyons, depuis Darwin, etc., qu'on rejette le joug de Dieu. Cependant, les gens veulent encore la loi et l'ordre. Le principe de la loi, de l'ordre, est laissé là dans la société. Ainsi, dans sa plupart, il y a encore certains critères moraux qui sont laissés là. Quel mystère! Ce n'est pas ce que les gens réellement veulent. Et cependant, Dieu a écrit dans la société comme une détermination irrésistible pour se tenir à certaines de ces choses. Le mystère d'iniquité qui a du mal à s'exprimer, qui est orchestré par Satan. Et cependant, tout cet ensemble, d'une certaine manière, est limité par le Seigneur, par sa main qui les retient. Ceci est un mystère pour l'incroyant. Certaines personnes disent que ce qui retient l'homme du péché, c'est la loi et l'ordre. Et ils ont raison dans un certain sens, mais c'est Dieu qui les retient. Seul le Saint-Esprit peut retenir l'homme du péché. J'en arrive, avant de considérer le verset 8, rapidement au verset 9. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles. Ce sont des paroles mystérieuses pour nous, peut-être nous pensons. Sa venue ou le sommet de, peu importe ce que c'est, l'humanisme scientifique, ce mouvement, le sommet de ce mouvement, l'apogée, c'est selon la force de Satan. Oh, cela ne signifie pas que Satan a toute puissance, seul Dieu a toute puissance. Cela signifie qu'il a la puissance au-delà de la capacité humaine. Il a une capacité qui est rare, mais non pas toute puissance. Seul Dieu a toute puissance. Ainsi, ce personnage aura une puissance et il va utiliser des prodiges, des signes et des faux miracles. Quel prodige, quel signe ? Quels seront ces signes, ces prodiges ? Des miracles, si vous voulez, si on peut les appeler ainsi, ou des choses extraordinaires qui vont l'authentifier, mais seulement aux yeux des incroyants, dit le passage. Il ne va pas tromper les croyants. Peu importe ces miracles ou signes apparents qu'il fera, les croyants vont voir que c'est faux. Et l'incroyant qui veut être trompé sera complètement séduit par ces choses. Quels sont ces prodiges et ces signes ? Je ne sais pas, mais je peux essayer de deviner pour vous donner une idée de ce que ça peut être, mais je ne sais pas. Un signe fait par l'humanisme scientifique, par l'homme du péché, son représentant, ce genre de signe pourrait être la soi-disant découverte, par exemple, d'un gène homosexuel, et tout le monde en parlerait. Et puis, on dirait que ceci est prouvé et l'incroyant croit cela. Voilà, la Bible avait tort tout le long et nous trouvons des gènes homosexuels. Et le croyant dira non, ce n'est pas possible. Même si vous le dites, vous n'avez pas trouvé cela. Il sera critique parce qu'il croit au livre de Dieu, la parole de Dieu. Oh, je donne simplement des suggestions, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à ma propre question. Quel signe, quel prodige est-ce qu'il pourrait faire pour convaincre certains et pas d'autres ? Peut-être qu'ils vont dire qu'ils ont excavé quelque chose de la terre qui prouve que la Bible est entièrement fausse. Et ceci serait convaincant pour l'incroyant, mais le croyant croit dans la parole de Dieu. C'est là l'idée. Mais ils vont produire leurs signes, leurs prodiges, peu importe ce qu'ils sont. Des prodiges, des faux miracles, et au verset 10, « Et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, ce seront ceux qui sont trompés, séduits, pas les croyants. » Mais je vais en arriver à la conclusion, chers amis, et j'en reviens au verset 7, « Car le mystère d'iniquité opère déjà. » Attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. C'est une traduction un peu ancienne. Celui qui retient, qui limite, qui retient l'homme du péché, l'homme sans loi, le retiendra jusqu'à ce que celui qui le retienne sera enlevé. Ceci pourrait être traduit également jusqu'au jour où celui qui le retient s'en va. Celui qui le retient, c'est Dieu. Dieu se met de côté. Quand le Saint-Esprit se met de côté, alors l'homme du péché sera libre de faire le pire. Il y a certaines choses que l'apôtre Paul ne mentionne pas ici. Elles nous sont enseignées ailleurs dans la Bible, certains détails. L'homme du péché, c'est la fin du petit temps de Satan dans le livre de l'Apocalypse. Les deux témoins, l'Église et ceux qui proclament l'Évangile sont capables à nouveau de se remettre sur leurs pieds et peut-être qu'il y aura encore un réveil de la fin des temps. Il y aura la prédication de la parole. Il y aura des gens sauvés et Christ reviendra. L'apôtre Paul ne parle pas de tout ici, il parle uniquement de ces choses, le règne de l'homme du péché sera de courte durée. Et ensuite, au verset 8, l'impie sera révélé, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Nous avons considéré ces deux événements qui précèdent sa venue. Nous avons vu les objectifs de l'homme du péché. Nous avons essayé d'identifier, mais je pense que c'est facile, c'est Dieu qui le retient, celui qui retient l'homme du péché. Nous avons vu certains aspects de ce que cet homme de péché fera avec la force de Satan. Satan ne peut pas venir lui-même, il ne peut pas être incarné, il n'en est pas autorisé. Et nous avons souligné la venue de Christ, combien nos privilèges sont grands. De voir, de comprendre ces choses, de savoir ce qui va se passer dans les jours derniers. Et nous soulignons que c'est un monde qui est perdu. Nous ne voulons pas améliorer le monde, mais nous prêchons l'évangile aux pécheurs perdus. Et nous voyons ici la victoire éternelle pour laquelle nous vivons.